Bonjour Daniela Festa, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et merci de l'invitation.
Daniela, vous êtes juriste et géographe et vous vous intéressez entre autres à la relation entre action collective et espace urbain, au droit à la ville et au commun urbain. Vous êtes actuellement rattachée à l'école de droit de Sciences Po. Pouvez-vous nous préciser de quoi on parle quand on parle de commun urbain?
Eh oui, ce n'est pas très facile de donner une définition univoque des communs urbains. Mais en parlant des communs urbains, on veut mettre en évidence tout un processus d'évolution dans le débat sur les communs qui a essayé de dépasser l'idée que les communs devaient être uniquement des ressources naturelles, une source d'eau, un pâturage, comme on trouvait dans la littérature scientifique et aussi dans la tradition de un peu tous les États européens, pour mettre en évidence que les communs peuvent aussi se situer dans la ville, et ça, pas uniquement pour le fait que leur localisation soit à l'intérieur de la ville, mais parce que la ville est un objet qui produit et reproduit constamment un commun, et donc elle produit et reproduit constamment des ressources qui sont mis à la, qui sont voués à l'usage collectif. Donc, marquer, juste à poser l'adjectif urbain au mot commun, veut marquer une grande évolution dans la pensée sur les communs, c'est-à-dire se libérer d'un présupposé naturalité au essentialisme de la ressource, considérer que les communs étaient communs parce que la ressource en elle-même avait des caractères communs, et regarder plutôt les relations entre les citoyens, les habitants, je dirais de façon plus large, et aux ressources, et leur façon de décider d'utiliser et de partager cette ressource.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, vous mettez l'accent plutôt que sur la chose, en quelque sorte, si on parle des ressources naturelles, vous mettez l'accent sur la relation qui se met en place autour de la ressource.
Tout à fait. Et cela n'est pas une façon de donner un intérêt secondaire aux ressources naturelles, au contraire. La pensée écologique, l'écologie politique en général a beaucoup apporté au débat sur les communs. Mais non pas parce que les ressources sont naturelles, mais parce que cette ressource naturelle nous impose une façon de préserver notre patrimoine naturel et culturel, de le transmettre aux générations futures, tout en pouvant l'utiliser, le rendre productif, etc. Donc là, on voit que aussi bien les ressources naturelles que celles-là, on va dire, artificielles ou culturelles, et, par exemple la connaissance, par exemple le web, nous demandent une relation, une façon de faire différent.
Oui, ce qu'on appelle
les envisage comme commun.
Ce qu'on appelle les ressources immatérielles, donc aussi.
Tout à fait.
Alors, on y reviendra, Daniela, justement, quand on parlera de la constituante des biens communs, puisque c'est la constituante des biens communs qui, en tout cas, d'après ce que j'ai bien compris, a participé à l'évolution de la notion de commun, puisque en Italie, donc pays dont vous venez, il y avait notamment à travers la commission donc Rodotà, la notion de bien commun. Et dans la suite de la commission Rodotà, vous avez travaillé avec d'autres personnes, d'autres juristes, à l'évolution de cette notion en l'élargissant, donc, si je résume, à la notion de commun et commun urbain. Mais on y reviendra. Daniela, vous constatez qu'en Italie, les plans d'aménagement urbain ne s'appliquent plus systématiquement à travers le prisme de l'intérêt général. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et est-ce que vous constatez la même chose en France?
C'est une constatation plutôt amère et bien évidemment qu'on ne peut pas généraliser la critique aux outils d'aménagement est une critique assez large. Et d'ailleurs, les études urbaines, les études sur l'aménagement ont déjà produit beaucoup de critiques internes eux-mêmes. Mm-hmm. En général, ce qu'on constate de façon assez large, hein, on organise plusieurs colloques, il y a plusieurs ouvrages qui se posent la question d'une espèce de basculement de la fonction d'aménagement qui a perdu sa capacité d'orienter les plans d'urbanisme et les projets urbains vers l'intérêt collectif et l'intérêt général. Je crois qu'on pourrait, on devrait regarder plusieurs causes, mais pour être, pour répondre à votre question, je crois qu'il y a surtout deux éléments qui ont déterminé une sorte de dérive dans les outils d'aménagement, qui on constate de façon générale en Italie et plus largement en Europe, avec beaucoup de nuances différenciées, bien évidemment. D'abord, la pratique de la planification par contrat et tout un ensemble de dérogations aux plans d'urbanisme généraux qui ont été mis en place, on va dire, à partir des années 70 et de façon de plus en plus forte vers les années 90, où on a commencé à trouver des dérogations aux plans d'urbanisme généraux qui sont normalement approuvés avec beaucoup de garanties démocratiques. Il ne s'agit pas en fait d'outils purement techniques, c'est des outils qui impactent sur nos vies quotidiennes, sur la ville qui nous traversons, sur des parcs, sur des jardins, sur des routes, sur des services urbains dont nous sommes les utilisateurs. Et donc, ces pratiques d'aménagement contracté ont fait basculer de plus en plus la fonction d'aménagement vers des sortes de partenariats publics-privés qui ne sont pas toujours orientés à l'intérêt collectif, mais qui met en avant de plus en plus, et à niveau global, l'intérêt privé, l'intérêt des entreprises qui y participent de façon de plus en plus importante. Une autre pratique qui est intervenue de façon globale, on a beaucoup en parlé au Brésil, si on pense à toutes les contestations pendant les Jeux Olympiques, avant même, dans la phase de préparation des Jeux Olympiques ou de la Coupe du Monde qui s'est tenue au Brésil, les gens ils sont descendus dans la rue, il y a eu beaucoup de contestations parce que ces grands projets, les Olympiades, les Jeux Olympiques, les expos universels, plutôt que d'autres projets un peu exceptionnels, très souvent, ils arrivent dans les programmes d'aménagement urbain et ils se situent en dehors de toutes règles, en dehors de toutes pratiques. Et très souvent, ils attirent beaucoup d'intérêt. Donc, tout cela, ce n'est pas pour vouloir stigmatiser le partenaire privé, mais pour dire que dans ces grands projets d'aménagement, dans ces grands plans d'aménagement, l'élément démocratique, parfois, il disparaît et ça se transforme très souvent dans un plan de communication institutionnelle qui n'intègre pas vraiment les procédés démocratiques.
Oui, parce que donc juste pour nos éditeurs de repréciser que les plans d'aménagement, donc notamment nous on a en France le plan local, enfin les plans locaux d'urbanisme et maintenant les plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui obligent à avoir une étape de concertation avec les habitants. Et du coup, si je résume ce que vous expliquez, c'est que les plans d'aménagement urbain sont adoptés selon les règles normalement démocratiques, mais par le biais de dérogations qui permettent de faire des partenariat public-privé, donc vous citiez par exemple le Brésil, ou sur des événements exceptionnels comme les Olympiades, etc., on déroge à cette obligation de passer par une phase de concertation avec les habitants.
Oui, normalement, c'est exactement comme vous avez précisé, et en plus, je voudrais aussi aller un peu plus loin pour dire que très souvent, la concertation et la participation qui les documents demandent et met en place, aussi bien à niveau local qu'à niveau européen et international. Il y a plusieurs conventions qui obligent à des concertations larges quand on met en place des projets qui touchent aux ressources naturelles ou qui peuvent provoquer des déchets polluants, des déchets nucléaires, etc. etc. Même ce type de concertation, parfois, n'est pas organisé, n'est pas proposé de façon à pouvoir être réellement démocratique. Parfois, il y a il y a la bonne foi de la partie des institutions. Parfois, ces institutions ils ont une notion un peu automatique ou mécanique des processus de participation et que vous savez, parce que je sais que vous êtes engagé aussi dans votre ville mm-hmm. en tant que citoyen et habitant, mm-hmm. vous savez que les processus de participation, ils demandent des temps longs, ils demandent une véritable information, ils ne peuvent pas se réduire à une petite réunion dans une salle où on décide, on n'est même pas censé décider parce que le projet est déjà prêt, nous informe qu'il sera mis en place d'ici à pas longtemps. Donc, il faut vraiment un peu renverser la logique. Ça fait plusieurs années, plusieurs décennies que nous essayons de faire comprendre que la participation est une question beaucoup plus profonde de ce qu'on avait imaginé et qui demande beaucoup plus d'attention. Mais nous sommes toujours là et il faut encore insister de façon très forte pour expliquer que les décisions qui concernent le milieu, notre milieu de vie, qu'il soit naturel, qu'il soit culturel, qu'il soit urbain ou même immatériel, doit être pris de façon large, dans des arènes et dans des décisions larges où on puisse vraiment mettre en place un processus de co-décision.
Oui, de co-décision et donc pas d'information comme on le fait en réalité la plupart du temps. Et donc, Daniela, vous justement, donc on mentionne les dérogations au plan d'aménagement, notamment au bénéfice d'entreprises privées et donc au bénéfice de dynamiques de privatisation. Quelle est la conséquence de la privatisation croissante de l'espace et de la ressource publique ?
Une question très compliquée, très difficile, et en même temps, nous tous, nous avons une expérience de la privatisation de l'espace public et des services publics. Bah, en Italie, par exemple, tout le mouvement sur les communs a été déclenché pour une vague sévère et importante de privatisation qui s'est mise en place au cours des années 90, mais qui a été accélérée de façon importante dans les années de la crise. Les effets sont des effets directs sur la vie des gens, ne sont pas des effets indirects ou qu'on pourrait estimer comme des effets marginaux. Non, ça impacte directement la vie des gens parce que l'espace public, les services publics, notamment, impactent directement la qualité de notre vie. Donc,
Par exemple, si on prend, parce qu'il y a eu un énorme mouvement donc en Italie autour d'un projet de privatisation de la gestion de l'eau, et est-ce que vous pouvez en dire deux mots à nos auditeurs, replacer un petit peu le contexte et ce qui s'est passé après justement ce projet de privatisation de la gestion ?
Et justement, c'était un projet qui était mis en place dans les années 2000 et qui visait à privatiser non seulement l'eau, mais tous les services publics, avec une obligation de privatisation de presque le 40% de capital qui devait passer donc aux entreprises privées et jusqu'à la totalité de capital. Donc, il s'agissait non pas d'une privatisation ponctuelle, mais d'une privatisation comme système culturel et économique. Faire passer l'idée et faire passer aussi les coalitions d'intérêts qui étaient derrière l'idée que la privatisation, que la gestion privée, c'est dans tous les cas la plus efficace et dans tous les cas l'évolution obligatoire de nos systèmes de gestion de ressources. Donc là, il y a eu une très grande mobilisation, une mobilisation qui a été très étonnante même pour nous-mêmes qui y avons participé parce que ça a été une mobilisation très transversale qui a créé des accords qui ont dépassé les fragmentations idéologiques et politiques ordinaires qui font partie de la vie politique d'un pays pour viser l'intérêt de garder une gestion publique et de plus en plus commun de certaines ressources. Par exemple, donc ce référendum a été un grand succès, un succès extraordinaire, et dans la phase de préparation et dans le moment de sa réalisation qui était en juin 2011, où le 96% des gens qui se sont exprimés déjà avec une participation très large de la population, a dit non, on ne veut pas de privatisation des services publics et de l'eau. Et dans tous les cas, on ne veut pas de privatisation systématique. À la limite, on peut envisager que certaines ressources, certains services pourraient tomber dans un régime de partenariat ou avec des privés, mais pas de façon systématique. Et surtout, l'eau, en tant que ressource primaire de notre bien-être, de notre existence, doit rester sur la régie publique. Non pas parce que la régie publique soit tellement
efficace.
efficace, mais parce que le service public permet aussi d'envisager après des gouvernances communes. Et donc la société publique qui a été mise en place à Naples, qui s'appelle ABC, c'est-à-dire au bien commun, c'est le nom de la société qui a été créée, c'est une régie publique qui présente des problématiques aussi, mais qui vise une gouvernance élargie, étendue à la société, avec la participation des travailleurs, d'associations qui puissent être dans le comité de vigilance et des décisions à l'intérieur du conseil d'administration même de la structure.
Donc justement, dans ce contexte, se développent des pratiques de commun, de plus en plus de pratiques de commun urbain qui opposent aux droits de propriété publique et privée, en tout cas cette vision dichotomique entre propriété publique et privée, le droit d'accès, d'usage et de gestion par les citadins de ressources cruciales. Et donc l'accent est mis plutôt sur l'importance de la fonction plus que sur la propriété. Et qui décide du caractère crucial de ces ressources? Comment est-ce que ça se passe, quoi?
Et on peut répondre à cette question sur l'angle de ce qui est ou de ce qui devrait être.
Et c'est vrai.
Qui devrait décider du caractère crucial de certaines ressources? L'ensemble des habitants, l'ensemble des citoyens, donc avec bien évidemment des différences d'échelle, une empreinte plus forte pour certaines ressources qui impactent directement sur des communautés locales et une prise de décision plus large pour des ressources qui ont une vocation un peu plus générale, un peu plus d'échelle un peu plus large. Mais en général, ce qui ressort de tout le mouvement des communs, qui devient de plus en plus large et qui est devenu une discipline, même une théorie. On parle des théories des communs et c'est une théorie interdisciplinaire. Donc, ce qui devrait décider d'une ressource, de l'essentialité d'une ressource, c'est les gens pour lesquels cette ressource est essentielle. Bien évidemment, après, elle peut être importante, voire utile pour d'autres gens. Et donc, il faut aussi structurer des formes de coordination. Et ça, c'est très important. Déjà, Elinor Ostrom, dans son discours, quand elle a reçu le prix Nobel. Et qui était un moment important, un moment clé sur l'évolution du débat sur les communs, a mis en évidence qu'il fallait commencer aussi à penser à un modèle plus général des cotisations des communs et à faire référence au modèle de polycentrisme élaboré par son mari, Vincent Ostrom, mais il y a aussi beaucoup d'autres hypothèses. C'est-à-dire la possibilité d'ancrer une ressource dans la communauté qui l'utilise de façon directe, sans oublier par contre que cette ressource peut être importante pour d'autres et aussi, surtout pour les générations qui vont venir. Donc cette idée nous permet de ne pas regarder au commun comme un ensemble d'îles et au contraire, même sur l'angle d'un risque de communautarisme, d'identitarisme, mais plutôt comme des ressources qui doivent nous permettre d'articuler des communautés différentes, des communautés qui sont des communautés physiques qu'on peut vraiment identifier, avec des communautés plus larges, la communauté du web, les communautés qu'on appelle épistémiques, qui produisent de la connaissance, mais qui ont besoin aussi des lieux physiques pour se rencontrer, pour échanger, ils ont besoin d'infrastructures. Donc, vraiment, il faut mettre l'accent sur le fait que le mouvement aussi bien scientifique que politique sur les communs ne doit pas aboutir à une Europe des petites patries, mais une articulation politique qui vise à l'évolution et à l'épanouissement individuel et collectif. C'est un propos qui a de l'utopie, mais c'est l'utopie qui
Qui
fait
me fait
avancer
avancer,
l'idée.
tout à fait. Et Daniela, en Italie, vous avez, il y a plusieurs expériences d'appropriation par les citadins d'espaces ou de biens publics ou privés qui sont définis justement comme cruciaux pour l'intérêt collectif. Alors, est-ce que vous pouvez, alors peut-être rapidement, parce qu'on est en train de dépasser le temps qui nous est imparti, peut-être nous citer rapidement un exemple et surtout nous dire comment est-ce que vous, qui êtes donc juriste, et géographe, mais comment est-ce que le droit vient accompagner cette dynamique?
Je vous ferai juste trois exemples et je ferai d'être rapide pour donner plutôt des suggestions que des solutions. Par exemple, 2011, un cinéma privé dans un quartier de Rome, un quartier très important pour ses traditions de résistance politique et aussi crucial à niveau économique, c'est le quartier universitaire. Un cinéma privé a été occupé par un ensemble très très large de citoyens, des comédiens, de juristes, de scientifiques, parce qu'ils devaient être dans le projet du propriétaire transformé en casino. Donc là, on voit que c'est ce projet. Il détournait totalement aux ressources qui étaient considérées importantes au niveau culturel et social de sa vocation originelle, parce que ce cinéma, ce lieu, restait comme un cinéma, et dans toute son histoire, avait été exploité comme cinéma ou fermé par la propriété qui considérait cette exploitation pas assez profitable. Plus tard, occupation du Théâtre Valle, un théâtre magnifique au cœur de Rome. Un des théâtres les plus importants de notre pays a été occupé par les travailleuses et les travailleurs du spectacle et de l'art. Et après, cette communauté s'est élargie énormément parce que ce théâtre était à risque de gestion privative, on va dire. Il serait resté public, bien évidemment. Il était rattaché, c'était un monument classé et c'est parti des mouvements des monuments de culturel d'Italie, mais on soupçonnait que sa gestion serait passée travers un appel d'offres en gestion purement privée.
Privé.
Encore, Asilo Filangieri à Naples, un établissement public de la ville, cette fois, pas de l'État, mais de la ville de Naples, il a été occupé parce qu'en fait, cette ressource n'était pas assez utilisée. Elle avait été confiée à une fondation culturelle, mais cette fondation, c'était un peu un écran vide et elle ne faisait pas grand-chose. Elle avait des très forts liens politiques, mais elle ne produisait pas des choses dans lesquelles la communauté de la ville, la communauté des travailleurs du spectacle, en première ligne, mais aussi de toute la ville, arrivait vraiment à se reconnaître. Donc, comment le droit rentre là-dedans? Le droit, il devient de plus en plus. Il y a plusieurs ouvrages qui sont sortis en France, dernièrement en France et en Belgique, qui peuvent être tout à fait intéressants. Je pense à l'ouvrage de Jacquemin et à l'ouvrage de François Host, qui s'interrogent sur le droit. À quoi sert le droit? Donc, on constate de plus en plus que les luttes s'organise aussi pour mettre en place des luttes juridiques, pour aller dans les tribunaux, pour avoir des décisions. Par exemple, l'occupation du cinéma Palazzo a eu un jugement qui on peut juger tout à fait positif par rapport à l'occupation, un jugement qui a protégé les occupants en disant que cette occupation n'était pas une occupation égoïste, qui visait à des intérêts égoïstiques, on va dire, mais était visé à la protection de la vocation culturelle originée des lieux. De plus en plus, le droit devient une façon, un langage pour faire avancer les luttes et faire comprendre aux autres la légitimité de certains luttes politiques et le fait que des luttes politiques peuvent utiliser le langage du droit, s'emparer du droit pour affirmer une façon plus large de profiter de certaines ressources, de mettre des ressources au service de la collectivité ou autrement de les protéger par les prédations qui peuvent leur attaquer.
En fait, un des enjeux principaux de la compagnie, enfin de du droit dans ces à côté de ces luttes, hein, je dis bien dans l'accompagnement à côté de ces luttes, c'est de créer de la culture du précédent, c'est-à-dire de créer des jurisprudences qui vont faire avancer justement les lignes. Et l'exemple que vous citiez suite à l'occupation du cinéma Palazzo en est un, puisque c'est justement en travaillant dans ces interstices du droit qu'on permet aussi de faire avancer les cultures et notamment la culture institutionnelle.
Tout à fait. Et c'est des précédents. Il faudra préciser que dans le système des civils, non, le précédent n'a pas un impact aussi fort que dans les systèmes de common law.
Mais
à côté de là, au-delà de ça, un arrêt de justice, une décision, un impact culturel important.
Oui,
déclare des choses qui peuvent être appropriées. Et j'utilise ce mot de la façon plus noble qu'on puisse l'entendre, approprié par d'autres gens qui sont en train de mener les mêmes combats, faire évoluer une conscience culturelle et politique. Et donc, c'est pour cela que le droit intervient pas seulement dans les palais de justice, mais intervient dans la culture. Donc, même au-delà des combats qu'on puisse mener dans des tribunaux, les combats parlent le langage de droit, performe le droit, on dit. C'est-à-dire, ils utilisent le droit pour produire une légitimité, un consensus, et pas uniquement pour produire un conflit, comme on pourrait penser si on pense à un litige judiciaire classique.
Merci beaucoup, Daniela. C'est vraiment passionnant. Et en fait, j'avais encore plein de questions, notamment sur les démarches faites par les maires de Bologne et de Naples qui ont créé des chartes pour donner un cadre sécurisé, en fait, aux dynamiques autour des communs urbains. Malheureusement, on a vraiment dépassé le temps, donc on ne va pas pouvoir en dire plus tout de suite. Mais ce qui est très bien, ce qui est super, c'est que vous venez à Marseille bientôt. Vous venez à Marseille les 8 et 9 décembre pour un événement qui est organisé justement autour des communs. Et donc, on va pouvoir creuser ces questions avec vous. Et je vous en remercie beaucoup. Merci pour votre disponibilité. Et donc, je vous dis à très bientôt.
Merci à vous de l'invitation et j'espère, lors de nos rencontres à décembre, de pouvoir entrer en relation avec des comités, des associations, des mouvements qui luttent pour les communs urbains, parce qu'on organise cet événement. Cet événement a été organisé dans le but aussi de tisser des liens, faire évoluer des rencontres et faire avancer donc les luttes pour les communs.
Exactement. Et donc, c'est tous ces collectifs, enfin tous, sans être exhaustif, en tout cas, nombreux collectifs seront invités. Et vous aurez donc les informations sur le site de Radio Grenouille, sur la page de Métamorphose, notamment, entre autres. Merci beaucoup, Daniela, et au plaisir de la prochaine rencontre.
Au revoir.
Au revoir.